Les infos à Washington.
Au micro, Nani Totalani, il est 17h à Luanda, c'est en Angola. Bienvenue au journal. Des sociétés de négoces suisses ont été accusées ce jeudi d'exporter des carburants très toxiques, selon le rapport Dirty Diesel publié par l'ONG Public Eye. Résultat de 3 ans d'enquête, le rapport affirme que les sociétés Vitol, Trafigura et Adax profitent de la faiblesse des normes africaines pour y vendre des carburants de mauvaise qualité et réaliser des profits au détriment de la santé de la population africaine. Certaines de ces sociétés ont acquis d'importants réseaux de stations-service en Afrique où ces carburants sont vendus. 8 pays sont notamment concernés, l'Angola, le Bénin, le Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Zambie. Devant cette situation, Public Eye a lancé une pétition pour que Trafigura, dont le siège est en Suisse, s'engage à ne vendre que des carburants conformes aux standards européens partout dans le monde. L'ONG propose aussi d'agir sur plusieurs niveaux pour mettre un terme au commerce injuste de carburants toxiques. Les gouvernements africains devraient fixer un seuil maximal de soufre et réguler les autres substances. Et les gouvernements occidentaux devraient interdire l'exportation de carburants trop dangereux pour la santé. Le Zimbabwe, en manque criant de liquidité, a décidé ce jeudi de lancer en octobre une nouvelle monnaie qui ne dit pas son nom. Indexée sur le dollar, elle fait craindre un retour à l'hyperinflation dans un pays déjà en pleine déliquescence économique. Le Zimbabwe a adopté le dollar américain et le rand sud-africain en 2009 à la suite d'une hausse des prix incontrôlable qui a atteint jusqu'à 231 millions de pourcents et fait perdre toute sa valeur au dollar zimbabwéen. Mais le pays se trouve désormais à court de dollars. Nombre de distributeurs d'argent sont hors service, contraignant les Zimbabwéens de faire la queue à la banque pour obtenir du liquide au retrait strictement limité. De son côté, le gouvernement peine à verser à temps les salaires des fonctionnaires qui représentent 97% du budget de l'État. Pour desserrer l'étau financier, la Banque centrale a annoncé ce jeudi l'introduction d'ici fin octobre de billets d'obligation. Ils serviront à se protéger contre ceux qui sortent les dollars américains du pays. C'est l'annonce du gouverneur de la Banque centrale. Aujourd'hui, Boko Haram a posté une nouvelle vidéo sur YouTube à l'occasion de l'Aïd al-Adha, mais Aboubakar Shekau, son chef historique, n'apparaît pas sur la vidéo. Qu'est-il advenu de lui? Tentative de réponse avec l'ancien recteur de l'Université de Lagos, le professeur Tundonu.
Qu'il soit encore en vie, parce qu'il était mon fanfaron que si effectivement il était en vie, il ne manquerait pas l'occasion de venir se moquer des autorités. Et je crois que la mise en scène, je crois que cela va dans le sens de ces gens qui sont vraiment aux abois. Ils savent que ça ne va pas durer très longtemps et bien évidemment, l'armée nigériane a gagné du terrain. La fameuse forêt de Sambisar est déjà encerclée et avec les moyens technologiques qu'on connaît désormais à l'aviation nigériane, je crois que tout ceci va rentrer dans l'ordre très très prochainement.
Le Kenya est accusé de ne pas respecter les normes internationales dans son programme de rapatriement des réfugiés somaliens dans le camp de Dadaab, dans le nord-est du pays, le plus grand du monde avec 263 000 réfugiés. Les autorités kenyanes ne donnent pas aux réfugiés somaliens un choix réel entre rester et partir. Et l'Agence aux réfugiés de l'ONU ne donne pas aux gens d'informations précises sur les conditions de sécurité en Somalie. C'est ce que déplore Bill Frelick, directeur du programme Réfugiés de Human Rights Watch, une organisation internationale de défense des droits de l'homme, de qui émanent les accusations qui pointent du doigt le Kenya. Les rapatriements des Somaliens motivés par la peur et la désinformation ne peuvent être considérés comme volontaires puisque les réfugiés n'ont pas authentiquement le libre choix de rentrer et ne sont pas pleinement informés de la situation de leur pays ainsi que l'exigent les textes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Bénin, le gouvernement suspend 3 responsables administratifs de la localité de Tori, où une explosion à la décharge d'incinération de produits avariés a fait 16 morts et 92 blessés vendredi, selon un nouveau bilan officiel. La décision a été prise à l'occasion du Conseil des ministres tenu hier. Ainsi, le commissaire de Tori, le chef de la brigade de la gendarmerie et le chef du dépôt des douanes ont été relevés de leurs fonctions. Le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, a été chargé d'accélérer l'enquête judiciaire entamée et de faire ouvrir des procédures à l'égard de toutes les personnes impliquées dans le drame. Le promoteur de la décharge n'a pas obtenu au préalable l'agrément nécessaire pour l'exercice de cette activité, a relevé Pascal Irénée Koupaki, secrétaire d'État à la présidence. Le rapport établit aussi que la procédure de destruction des produits avariés n'a pas été respectée et que l'opération n'a pas été sécurisée à la mesure des risques potentiels. En République démocratique du Congo, les négociateurs du dialogue national annoncent avoir trouvé un accord sur la séquence des élections à venir dans le pays, mais ils n'ont pas fixé de date. Bagassi Koura, c'est ce point qui constituait le blocage sur la tenue du dialogue national.
Oui, parce que pour l'opposition, qui avait suspendu sa participation au dialogue lundi, il y avait une divergence de vues non négociable avec la majorité sur la priorité à accorder à l'élection présidentielle. Cet accord doit donc permettre la reprise des travaux de ce forum cet après-midi. Au terme de l'accord, la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales se dérouleront exactement le même jour, a déclaré à la presse le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba, co-modérateur du dialogue pour le compte de la majorité présidentielle. Les deux parties ont indiqué qu'elles laisseraient le soin à la Commission électorale nationale indépendante de fixer la date à laquelle se tiendront ces scrutins en fonction du temps nécessaire à la constitution de listes électorales fiables. Avant la suspension des travaux, la délégation de l'opposition insistait pour tenir en priorité la présidentielle. La majorité, au contraire, affirmait qu'il faudrait tenir cette élection après l'organisation de tous les autres scrutins en retard.
En Syrie, une vingtaine de camions devant acheminer de l'aide humanitaire de l'ONU dans l'est d'Alep ont franchi la frontière turque et attendent dans une zone tampon située entre la Turquie et la Syrie. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi l'ONU, qui espère une distribution demain vendredi pour soulager les quelques 250 000 personnes qui attendent cette assistance. L'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, a toutefois expliqué que le convoi ne pouvait pas partir tant que les conditions de sécurité sur la route de Castello, axe principal menant à l'est d'Alep, n'étaient pas garanties. Concrètement, les Nations Unies attendent que la démilitarisation de cette route prévue dans l'accord conclu entre Washington et Moscou soit mise en œuvre pour acheminer de l'aide dans l'est d'Alep. Selon M. de Staffan, après cela, l'ONU enverra une simple notification au gouvernement syrien donnant des détails sur l'aide se trouvant dans les camions qui seront scellés. Cette aide bénéficie d'un statut spécial. Les autorités syriennes n'auront ainsi pas le droit de vérifier ce qui se trouve dans les camions. Une fois la distribution effectuée, les Nations Unies enverront une nouvelle notification à Damas précisant les quantités d'aide remises. Et la Russie vient d'annoncer que l'armée syrienne a commencé à se retirer de la route du Castello, l'axe vital pour acheminer de l'aide humanitaire dans les quartiers rebelles d'Alep. L'annonce vient du chef du centre russe de coordination, le général Vladimir Savchenko, au cours d'un point de presse. Conformément à leurs engagements, les forces syriennes ont commencé le retrait par étapes de leur matériel de combat et de leur personnel, a-t-il déclaré, ajoutant que les rebelles n'avaient en revanche pas amorcé leur retrait. Le retrait de ces troupes permettra donc l'acheminement de l'aide humanitaire dans Alep. L'accord trouvé entre Washington et Moscou prévoit un accès humanitaire sans entrave aux zones assiégées.
VOA Afrique en direct de Washington.
Enfin, ici aux États-Unis, les candidats à la présidentielle américaine, Donald Trump et Hillary Clinton, sont au coude à coude. Les partisans de la démocrate ont perdu de leur enthousiasme, tandis que ceux des républicains gardent leur enthousiasme, selon un sondage publié ce jeudi. Réalisé pour CBS News et le New York Times, ce sondage révèle qu'Hillary Clinton et Donald Trump obtiendraient le même score de 42% parmi les électeurs potentiels du 8 novembre. Et parmi ces électeurs inscrits, qui ne sont pas tous susceptibles de se déplacer, la démocrate ne dévancerait le républicain que de 2 points, dont 41 sur 39. La part des électeurs démocrates assez enthousiastes s'est réduite de 13 points par rapport à août, tandis que celle des démocrates très enthousiastes a diminué de 9 points. Et les partisans de Trump sont donc plus enthousiastes à l'idée d'aller voter que ceux de Clinton, note encore l'étude. Voilà pour ce journal. Je vous retrouve dans une heure environ pour un nouveau point sur l'actualité. Mais restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique et aussi suivez notre page Internet et notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.